Le paradis, c'est d'être avec Christ dans ce lieu particulier où nous jouirons de sa présence et où l'âme déjà, après la mort, jouit de sa présence dans l'attente de la résurrection, l'âme du croyant. Et puis, il y a aussi ce passage extraordinaire de la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 12, où l'apôtre Paul nous fait part de ce qu'il a lui-même, de ce qu'il a lui-même pu apprécier. Chapitre 12 de la deuxième aux Corinthiens, « Je connais un homme en Christ qu'il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais, si ce fut hors du corps, je ne sais, Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. » Verset 4, « Il a été ravi dans le paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. » Le troisième ciel ici, c'est donc la demeure de Dieu. Et c'est quelque chose de très très élevé. Paul entend comme en Christ, c'est-à-dire réalisant sa position en Christ, identifié avec Christ, a eu cette vision extraordinaire, ce moment extraordinaire qui a marqué sa vie. Et cela a été réalisé en esprit. Son corps n'y a pas participé, verset 3. Mais on peut dire que cela aussi nous fait penser à la valeur de la communion que nous pouvons déjà avoir quant à ces choses qui seront notre part plus tard.
Un passage dans l'Épître aux Romains au chapitre 10, versets 9 à 13. « Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à justice, de la bouche on fait confession à salut. Car l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Car il n'y a pas de différence de juif et de grec, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est une illustration de ce que l'on a dans ce qu'on a lu dans l'évangile de Luc. Que fait le brigand? Il confesse de sa bouche Jésus comme Seigneur. « Souviens-toi de moi, Seigneur. » C'est vraiment l'expression de sa foi. « Quand tu viendras dans ton royaume, il ne doute pas que le Seigneur va ressusciter. » C'est absolument, si on peut dire, incroyable. Où est-il? Il est sur la croix. Où est le Seigneur? Il est sur la croix aussi. Il va mourir. Ils vont mourir. Quand tu viendras dans ton royaume, il ne doute absolument pas que le Seigneur va ressusciter, qu'il va régner. Et il invoque le Seigneur, et le Seigneur est riche envers lui. Le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et la réponse du Seigneur, c'est à ce quiconque, à cet homme-là, que personne n'aurait... On aurait peut-être pensé, tout à l'heure on a parlé de Joseph, alors lui, c'est normal qu'il soit sauvé, mais ce brigand-là, c'est impossible. Mais non, il fait partie des quiconques. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et la réponse du Seigneur, c'est, en vérité, je te dis, c'est absolu, c'est sûr, c'est certain. En vérité, je te dis, à toi, aujourd'hui, non pas demain, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tu es là maintenant avec moi, à côté de moi sur la croix, mais tu seras avec moi dans le paradis. Et je te le dis aujourd'hui, c'est une paix immédiate. C'est quelque chose sur laquelle personne ne peut revenir. Il va rester encore sur la croix quelques heures, le brigand. Mais quelle différence pour lui entre les premières heures qu'il a passées et les dernières heures avant sa mort, dans son cœur, cette parole du Seigneur, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Il est extrêmement frappant de voir le contexte dans lequel le Seigneur a dit cela. Trois fois, nous l'avons vu, deux fois dans l'évangile de Marc et une fois dans l'évangile de Luc, le Seigneur entend cette parole de la part de ce qui passe, verset 29 du chapitre 15 de l'évangile de Marc, « Et toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi, toi-même. Puis, un petit peu plus loin, verset 31, c'est les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les scribes qui sont là et disent, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Et une troisième fois, de la part donc d'un des brigands, comme nous l'avons dans le verset 39 de Luc 23, sauve-toi toi-même. Quelle est la réponse? L'auteur de l'épître aux Hébreux nous donne dans Hébreux 12 un passage merveilleux qui nous l'éclaire. Jésus, le chef et le consommateur de la foi, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, a méprisé la honte. Le salut ne peut être, cela a été dit, mais combien il nous est précieux de le répéter, ne peut être obtenu que sur la base des souffrances et de la mort du Seigneur. Mais le Seigneur est le chef et le consommateur de la foi. Ce qu'il nous faut, c'est croire. Ce qu'il nous faut, c'est placer notre foi dans ce que le Seigneur a fait, dans ce que le Seigneur a dit. C'est ce que ce brigand a fait ici. Donc la réponse à ces trois injures que nous avons, montrant l'incapacité de l'homme de discerner le salut seul, la foi peut le faire. Et combien il est capital au jour d'aujourd'hui, il me semble de le souligner, ce n'est pas un raisonnement qui a mené ce brigand à croire, c'est de constater que le Seigneur était juste et qu'il était cloué injustement sur la croix. Comme Pierre pourra le dire, il a souffert, lui, le juste, pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu.
Pour souligner aussi ce mot « aujourd'hui », c'est le dernier des sept « aujourd'hui » prononcés par le Seigneur ou par les anges à sa naissance. Les sept « aujourd'hui », le dernier est celui-ci. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le brigand envisageait un futur peut-être très lointain. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Un peu à la façon dont Marthe, en Jean 11, répond au Seigneur, « Oui, je sais que mon frère ressuscitera en la résurrection au dernier jour. » C'est très lointain. C'est une assurance, et là, c'est un espoir, mais il est tellement lointain qu'il ne console encore guère. Et le Seigneur de lui répondre alors, aujourd'hui, comme il a répondu à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On a brièvement ces « aujourd'hui », donc on a un « aujourd'hui » en Luc 2, où il y a la naissance du Seigneur, un « aujourd'hui » en rapport avec son ministère. « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, vous l'entendant, en Luc 4. » Il y a les « aujourd'hui » qu'il prononce en répondant indirectement à Hérode, aujourd'hui je marche, aujourd'hui et demain, le troisième jour je suis consommé, toujours en rapport avec son ministère. Il y a les deux aujourd'hui qu'il prononce à l'adresse de Zachée, aujourd'hui le salut est venu à cette maison, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Ce sont les aujourd'hui qui nous concernent, les aujourd'hui où le salut est proposé à chacun. Et cet aujourd'hui est encore le 25 juin 1995, c'est encore pour chacun l'aujourd'hui du salut. L'aujourd'hui où le salut est proposé, où il entre et il est proposé en ces instants dans cette salle. Plût à Dieu qu'aucun d'entre les auditeurs n'y soit sourd. Et alors, le dernier des aujourd'hui, c'est un aujourd'hui qui nous introduit dans le jour éternel, être avec le Seigneur dans le paradis. S'il en a répondu aux deux précédents, aujourd'hui, le salut est venu à cette maison, et s'il en a accepté ce salut proposé aujourd'hui, alors l'aujourd'hui de demain, peut-on dire, se réalisera pour celui qui a ouvert son cœur à l'amour de Jésus.
Nous savons que le grec ne comporte pas de virgule, ponctuation. Et nous sommes profondément persuadés que le texte que nous avons entre les mains représente l'intention de l'esprit, qui place les deux points après « En vérité, je te dis ». et aujourd'hui, en même temps, tu seras avec moi dans le paradis. Quelqu'un a dit, je le répète, c'est de toute beauté, aujourd'hui, quelle promptitude, tu seras, quelle certitude, avec moi, quelle compagnie, dans le paradis, quel repos. Donc il n'y avait point d'attente pour le brigand, aujourd'hui. Mais, pensons aussi à Christ. La confiance de l'homme, rappelons-nous que cette parole est dans l'évangile selon Luc qui nous présente l'homme Christ Jésus, l'homme parfait. La confiance de Christ comme homme, que l'on voit dans le psaume 16, « Tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Le Seigneur savait que le Père allait le ressusciter d'entre les morts, que en ce moment même, son âme serait recueillie dans le paradis de Dieu, avec justement le brigand, l'âme du brigand aussi. Le premier fruit, la grâce de Christ.
Une application pratique quand même avant de terminer. Comme il était rappelé, le brigand, après avoir entendu cette parole, son attitude intérieure est toute changée, sa joie, son espérance est merveilleuse devant lui. Ce n'est plus, son espérance n'est plus la fosse commune, c'est être avec Jésus dans le paradis, le soir même. Et pour nous, qu'est-ce que fait pour nos cœurs la pensée que nous allons bientôt entrer avec le Seigneur dans la gloire, être avec lui? Est-ce que ça change nos vies? Est-ce que nos cœurs sont heureux chaque jour en attendant la venue du Seigneur? Est-ce que nos cœurs sont heureux chaque jour à la pensée, bientôt je vais voir Jésus?
Luc 23, verset 44. Or, il était environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure. Et le soleil fut obscurci, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et ayant dit cela, il expira. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 45. Mais depuis la sixième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, « Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu cela, disaient, « Il appelle Élie, celui-ci. » Et aussitôt, l'un d'entre eux courut, et prit une éponge et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie vient pour le sauver. » Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent. Et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 25. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait donc là un vase plein de vinaigre, et ils emplirent de vinaigre une éponge, et l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est accompli. » Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Évangile selon Luc au chapitre 22. Luc 22, verset 19. Et Jésus, ayant pris un pain, ayant rendu grâce, le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, la coupe aussi, après le souper, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. »
Ce matin, nous avons commencé cette méditation des sept paroles prononcées par notre Seigneur sur la croix. Nous avions remarqué qu'il y en avait trois qui avaient été prononcées avant les heures de ténèbres, qui ont eu lieu de la sixième heure à la neuvième heure. Nous avons médité les deux premières. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il nous reste donc encore une parole qu'on trouve dans Jean, qui est une parole adressée à sa mère et à Jean, le disciple qu'il aimait. Ensuite, nous aurons cette parole si profonde et qui exprime cette douleur absolue du Seigneur Jésus à la fin des trois heures de ténèbres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et enfin, ces trois qui sont postérieurs à ce moment-là. J'ai soif, c'est accompli, et Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'était le premier répit de cette gerbe qu'il pourra présenter, lui qui revient avec chant de joie portant ses gerbes. Eh bien, c'était le premier répit. Qui ? Un homme reconnu des autres ? Non, un pauvre homme, un malfaiteur, un brigand. Eh bien, nous avons aussi dit que ce salut est pour chacun de nous et qu'il n'y a rien à faire pour le gagner, sinon se reconnaître tel que nous sommes devant Jésus, devant Dieu lui-même. Alors, nous voilà à la troisième parole dans l'évangile de Jean au chapitre 19 et au verset 25 et 26. Et que trouvons-nous ici près de la croix ? Sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Magdala et Jean, le disciple que Jésus aimait. Et on peut dire que ces différentes personnes sont ceux de sa connaissance et sont tous venus avec de l'amour plein le cœur. Pourquoi sont-elles là ? Parce qu'elles aiment celui qui est là crucifié. Mais quelle souffrance ! Une maman qui voit son enfant crucifié. C'est l'amour d'une mère. Ensuite, nous avons l'amour fraternel, la sœur de sa mère, qui est venue là aussi pour consoler cette mère éplorée devant ce fils qui souffre tant et qui va mourir. Ensuite, nous avons dans Marie de Magdala l'amour d'une pécheresse devant son sauveur, celle qui a été délivrée de sept démons. Oh, elle connaît ce que Jésus a fait dans sa vie. Quelle transformation ! Et elle l'a suivi et elle l'a servi depuis la Galilée, depuis le moment où il l'a délivrée de sept démons. Et elle est là, au pied de la croix, plein d'amour. Et nous verrons pas, mais nous savons que pour elle, si Jésus n'est pas là, il n'y a plus rien. Pour elle, aimer, c'est aimer Jésus. Elle est là, au pied de la croix. Et puis, il y a l'amour d'un disciple. Jean le disciple bien-aimé, est là, au pied de la croix. Et il aime. Il aime son maître. Il est près de lui. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus va parler. Et on peut dire que cet amour humain se trouve en face d'un amour qui le dépasse ou qui les dépasse. L'amour divin est là. Déjà dans ce qu'il a dit. Et ici qui prend soin d'une femme et d'un homme. Avait-il autre chose de plus important à faire, le Seigneur Jésus ? Non, il était important qu'ils disent quelque chose. Et ceux qui étaient là dans la souffrance vont recevoir une parole. Une parole qui va amener cette pensée que l'amour divin lie ensemble ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Et une mère et son fils, un fils et une mère. Des liens d'intimité, résultat de l'amour divin. Et est-ce que finalement, cette parole ne veut pas aussi nous dire à chacun de nous que ce que Christ a fait, ce qu'il a été sur la croix et dans son œuvre, a produit ce qui est comme résultat, cette unité de tous ceux qu'il aime, ensemble, une unité, une union en Christ. Est-ce que ces quelques paroles ne sont pas là pour nous parler de cela ? Alors, on a demandé tout à l'heure, c'est que on puisse aborder donc chacune de ces paroles dans l'après-midi. Et c'est vrai que nous ne pourrons pas certainement aller jusqu'au fond de ce que nous aimerions. Mais que le Seigneur bénisse sa parole pour nous cet après-midi.
Au chapitre 2 de Luc, alors que le Seigneur n'avait que 8 jours, il était dans le temple ou plus exactement, c'était le 40e jour de sa naissance, c'était la mère de Joseph qui allait dans le temple pour porter les sacrifices rituels, il est survenu Siméon, qui, par l'Esprit, va s'adresser à Marie, la mère de Jésus, en la bénissant. Et il lui dit, nous lisons les versets 34 et 35, en soulignant la petite parenthèse du début du verset 35, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira. Et même une épée transpercera ta propre âme, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. » Elle n'a certainement pas compris ce que signifiait cette parole mise entre parenthèses dans notre traduction, « Une épée transpercera ta propre âme. » Mais là, sur le calvaire, elle est vraiment transpercée par cette épée. Ses affections sont bouleversées. Une âme entièrement bouleversée par cette scène qui se déroule devant elle. Où va-t-elle trouver la consolation? Elle est peut-être venue sur le calvaire dans la pensée d'apporter quelque chose à son fils. Elle doit recevoir. Et cette troisième ou deuxième parole du Seigneur adressée à sa mère nous montre la valeur des affections naturelles et comment elles peuvent être, je dirais, sublimées par l'amour divin. On a là, dans les paroles du Seigneur, toute l'affection naturelle, tous les sentiments saints, purs, absolus de Jésus, avec tout l'amour divin qui était en lui, dont il était la manifestation parfaite. Rien ne peut être prononcé par Marie. Elle ne peut que recevoir. Femme, voilà ton fils. Comme s'il allait dire, eh bien, ce que même au cours de mon ministère, je n'ai pas pu te donner. Car nous le voyons à deux ou trois reprises, dans les évangiles et même encore en Jean, où il peut dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ?» Les relations ne pouvaient pas être pleinement goûtées, Marie étant là comme représentante du peuple Israël selon la chair. Mais maintenant, sur le calvaire, dans ce moment crucial, il n'y a plus rien qui fasse obstacle à l'expression totale des sentiments du cœur de Jésus pour soulager, pour bander, pour mettre le baume nécessaire sur cette plaie immense, l'épée qui transperce l'âme de Marie. Et il y a quelque chose qui touche profondément, deux sentiments, nos sentiments humains, oui, mais des sentiments sanctifiés par l'Esprit de Dieu.
Peut-être que si nous avions eu, par notre propre esprit, notre propre intelligence, à écrire les évangiles, nous n'aurions pas mis ces paroles du Seigneur dans l'évangile selon Jean. On aurait peut-être pu penser, ça aurait été plus logique, si on peut s'exprimer ainsi, avec toute révérence, dans l'évangile selon Luc, où il est le Fils de l'homme, où on voit sa naissance, c'est là où il est question de sa vie quand il était un garçon de 12 ans. Et on aurait pu penser que c'était peut-être plus juste que ce soit dans l'évangile qui a ce caractère. Eh bien non, c'était bien plus juste dans l'évangile où il nous est présenté comme le Fils de Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu, mais il est homme. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. C'est bien dans cet évangile. Et peut-être qu'on pourrait s'exhorter l'un à l'autre, prenez l'évangile selon Jean et regardez le Seigneur, comment il se présente et comment il est reçu. Beaucoup de questions, qui est cet homme? Et lui va répondre, moi un homme qui vous ai dit la vérité. C'est, que ferais-je donc de cet homme? C'est là où il est dit, voici l'homme. Il est parfaitement homme. Il est parfaitement Dieu. Et dans la manière dont il s'occupe ainsi de sa mère, il le fait d'une façon parfaite comme un homme et d'une façon parfaite étant le Fils de Dieu.
Donc dans sa vie, le Seigneur Jésus a été la parfaite offrande de gâteau. Sa vie a été une perfection, une offrande de bonne odeur qui est montée pour Dieu. Le terme de l'offrande de gâteau, c'est l'holocauste. Et finalement, on passe dans la transition entre ces deux sacrifices. Nous savons qu'il y avait deux choses qui étaient interdites.
de lier à l'offrande de gâteau. Le levain, symbole habituel du mal, et aussi le miel, qui n'est pas mauvais en soi-même, d'autant plus que le Seigneur, en résurrection, en a mangé un peu avec quelque peu de poisson. Donc le miel n'est pas mauvais en soi-même. Et le sortir de sa place, comme symbole des affections humaines, c'est ne pas glorifier Dieu. Et le Seigneur qui aimait sa mère selon la chair, d'un amour sans limite, tout à fait à sa place, merveilleux, était comme ainsi dire restreint en lui-même parce que deux ou trois fois, notre frère l'a rappelé, sa mère, bien qu'auparavant elle ait gardé ces choses dans son cœur, la fin de Luc 2 nous le dit, eh bien elle n'avait pas l'intelligence spirituelle des choses. Elle a osé même indirectement se mettre en travers du chemin de son fils. Le Seigneur, avec une apparence de dureté, mais en toute merveilleuse compassion, parle à sa mère comme seul, lui seul pouvait le faire. Maintenant, tout est terminé. Nous sommes arrivés au terme de l'offrande de gâteau. La vie de Jésus est maintenant offerte. Toute sa vie a été un parfum. Maintenant, c'est sa mort qui est devant lui. Ce qui suggérerait peut-être que ses paroles, spirituellement, sont placées après les heures de l'expiation. Là, moi, personnellement, je pense que la question se pose. De toute manière, en Christ, nous n'avons pas à faire la chronologie des événements. C'est une conséquence de la mort de Christ que maintenant Christ puisse parler ainsi à sa mère, remettre sa mère aux soins du disciple que Jésus aimait, pas aux autres, et remettre son disciple que Jésus aimait aux soins de sa mère. On trouve ici le lien entre les affections humaines parfaitement à sa place en Christ et les affections divines. Mais l'un est le symbole de l'autre. Philippe l'a bien expliqué tout à l'heure. Il est bien clair que c'est sur cette base-là que maintenant sont formés, sont issus les liens d'affection divine qui unissent les saints entre eux. On trouve déjà le symbole de l'unité des croyants, ensemble, unis par un même amour et par un même lien qui est celui de Christ lui-même.
Si Marie n'avait pas été près de la croix, elle n'aurait pas reçu cette consolation. Si Jean n'avait pas été lui-même près de la croix, il n'aurait pas reçu cette mission. Nous soit accordé de nous tenir près de Christ pour recevoir une mission de sa part, comme Jean en a reçu une.
On verra ici que le passage nous présente trois Marie, et la quatrième n'y est pas. Marie de Béthanie avait déjà accompli son service. Elle avait anticipé d'ailleurs la mort et la sépulture de son maître, de son sauveur, de son seigneur, lorsqu'à Béthanie elle avait répandu le parfum. En passant d'ailleurs pour les jeunes que ça intéresse, la sœur de sa mère n'est pas une apposition de Marie. La sœur de sa mère est différente de Marie, la mère de Jésus, et Marie, la femme de Clopas. Il y a donc trois Marie, plus Marie de Béthanie, et la sœur de la mère de Jésus.
Un autre groupe de femmes est mentionné dans les autres évangiles, et dans cet autre groupe, il y a aussi Marie de Magdala, et il est dit dans les évangiles synoptiques qu'elle se tenait à distance. Ici, cette même Marie de Magdala, qui fait partie de ce premier groupe mentionné là, c'est près de la croix. Il n'y a pas contradiction. Peut-être que pratiquement, elles se sont éloignées. C'est une possibilité. Mais peu importe, la signification ici, c'est qu'il est question des affections. Il est question du cœur. Le cœur est près de notre Sauveur. Dans les autres évangiles, les souffrances du Seigneur sont mises en évidence. C'est là que l'abandon est signalé et non pas en Jean. Il y a l'expiation, il y a Christ qui a fait péché pour nous, il y a de la distance inévitable.
Pensez au drame pour cette mère, la mère du Seigneur, qui avait vu dans son fils un homme parfait, parfait en tout, parfait dans ses sentiments, toute sa vie. Envers elle, et elle le connaissait très bien. Pensons à Cana de Galilée, quand il manque du vin, elle sait tout de suite vers qui se tourner. Eh bien, celui qui a été tellement rempli d'amour pour elle, voilà qu'il est crucifié. Alors elle perdait tout, vraiment. Eh bien, le Seigneur la console parce qu'il connaît, lui, peut-être plus qu'elle encore, la perte que Marie, sa mère, allait faire. Elle sait qu'elle a besoin de quelqu'un qui aime. Et elle recommande à Jean
non seulement qui aimait le Seigneur, mais dont il est dit que Jésus l'aimait. On a un très bel exemple de ces sentiments de Marie au moment de la naissance de Benjamin. En Genèse 35, lorsque Rachel meurt au moment de la naissance de son dernier enfant, elle appelle son enfant Benoni, c'est-à-dire fils de ma peine. Son père l'appelle fils de ma droite. Le vrai Benjamin, c'est Christ lui-même. C'est le loup qui déchire dans Genèse 49 pour montrer l'énergie. Mais c'est le bien-aimé de l'Éternel qui habite auprès de lui. Christ lui-même est le vrai Benjamin. Les sentiments qui ont habité le cœur de Jacob, ils ne l'ont jamais quitté. La dernière parole de Jacob avant de bénir ses enfants, et moi, lorsque j'étais à Padan Aram avec Rachel. Elle est partie, je crois que c'était 17 ans après.
C'est aussi un très bel exemple de ce qu'est le service pour le Seigneur et de sa source. Ce que nous avons ici, c'est donc, cela a été dit, une mission que le Seigneur confie à Jean. C'est la seconde fois que nous avons dans cet évangile cette expression « le disciple que Jésus aimait ». Elle s'y trouve 5 fois. Et pourquoi est-ce que cela est-il souligné? Certainement parce que les forces dont Jean aurait besoin pour s'occuper de la mère, donc du Seigneur qui était maintenant sa mère, comme le Seigneur le dit, se trouvaient dans la connaissance et dans le fait éprouvé qu'il savait que le Seigneur l'aimait. Et quelle est la véritable source de notre service? Ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur, mais c'est bien la conscience que le Seigneur nous aime.
Il aime aussi ceux à qui il nous demande d'exercer des soins. Cher frère, le frère pour lequel Christ est mort. En Corinthiens 8 et Romains 14.
Et nous arrivons à la parole adressé par le Seigneur à la fin des 3 heures de ténèbres que nous retrouvons donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, ou dans le chapitre 15 de Marc. Alors, dans cet évangile selon Matthieu, il y eut des ténèbres, verset 45, sur tout le pays jusqu'à la 9e heure, et vers la 9e heure. Jésus s'écria d'une forte voix, disant « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une parole qui vient comme du fond d'un gouffre. Tant de psaumes, et en particulier le psaume 22, mais d'autres comme le psaume 69 et autres, nous parlent justement de ce puits, de la destruction. Nous parlent de ce gouffre dans lequel notre Seigneur a été mis, a été placé. Notre Seigneur qui a été frappé par Dieu, il plut à l'Éternel de le meurtrir. C'est pour cela qu'il était venu. Mais quel moment pour lui. Quand on le voit au jardin de Gethsémané, et qu'il a devant lui ce moment où il devra être fait péché pour nous, il est dans l'angoisse du combat. Et prie son Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive. Mais là, ce cri douloureux est lancé après que les heures de ténèbres aient été accomplies. Des heures où le berger a frappé. Et on peut lire un peu cette prophétie quand même dans Zacharie.
Esprit Saint pour une telle période de ruine et de décadence. Mais la pensée de Dieu est toujours la même, de réunir ceux qui ont un cœur pur sur ce terrain très sûr, divin, biblique, de l'unité du corps de Christ. Mais cela suppose un exercice, parce que dans la chrétienté où nous sommes, nous offrons le spectacle de divisions humiliantes. Et pourtant, il y a un chemin que Dieu indique à la foi, au fidèle qui a à cœur de savoir où se trouve le Seigneur. Et nous avons quelquefois rencontré des personnes qui ont fait un chemin extrêmement éprouvant en fréquentant différents milieux chrétiens pour aboutir quelquefois à l'assemblée, en reconnaissant par la grâce de Dieu, peut-être pas de la même manière aujourd'hui, hélas, mais nous avons entendu de tels témoignages arriver dans l'assemblée où la présence du Seigneur était réalisée par les deux ou trois, où le Saint-Esprit agissait de façon évidente, où l'autorité de la parole était pleinement reconnue, et ils ont dit, c'est là, nous restons.